quand est-ce que cet essoufflement il va s'arrêter et quand est-ce que je pourrai enfin respirer normalement et plus avoir à penser à ce virus.
Il arrive vite et il met du temps à partir, le Covid-19. Même dans des formes légères, la convalescence est longue. Didier Raoult prédisait une disparition du virus pour des raisons étranges. D'ici quelques semaines, l'Agence régionale de santé remet les points sur les informations.
Non, l'épidémie de coronavirus n'est pas en train de disparaître. Rien que dans la journée d'hier, 481 nouveaux cas ont été enregistrés.
Vélo, boulot, dodo. Après le confinement, va-t-on nous inciter à pédaler pour éviter la promiscuité des transports en commun? C'est une piste cyclable, évidemment. Et puis, eux aimeraient bien se dégourdir les réacteurs. Les avions aussi ont du mal avec le confinement. Leurs roues doivent être régulièrement tournées pour ne pas s'abîmer.
On utilise un cric, comme pour une voiture, pour pouvoir régulièrement éviter que cette carcasse de la roue ne puisse s'endommager.
À 8h15, Sonia Mabrouk reçoit le professeur Gabriel Stegg, coprésident du comité de pilotage recherche Covid-19 de l'assistance publique Hôpitaux de Paris. Vous dialoguez avec lui ensuite, vous posez vos questions. Personnel soignant en particulier, je vous attends ce matin à partir de 8h30, 3921 et le hashtag Radio Ouverte à 8h45. Bien sûr, Nicolas Cantelot et sa revue de presque. Bon réveil, il est 8h02 et nous sommes tous ensemble donc sur Europe 1, bien sûr.
Europe 1, écoutez le monde changer.
On ne les compte pas chaque soir, ils n'ont pas besoin d'être intubés, mais les malades de forme légère du coronavirus sont des dizaines de milliers, restés chez eux. Le chemin pour se remettre de la maladie est parfois très long.
Même après plusieurs semaines, certaines douleurs, certaines gênes persistent, comme chez Laurent, que Victor Delande a joint pour Europe 1.
J'aimerais quand même savoir quand est-ce que cet essoufflement il va s'arrêter et quand est-ce que je pourrais enfin respirer normalement et plus avoir à penser à ce virus?
Laurent a contracté le coronavirus il y a pourtant un mois. Entre la fatigue, les problèmes respiratoires et les pressions sur le thorax, il est inquiet. Autre symptôme qui persiste chez certains patients, la perte du goût et de l'odorat. Gilles Pialoux, chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital Tenon, livre un début d'explication.
L'anosmie et l'agnosie, ils sont des signes gênants mais pas graves en soi. Il semble qu'effectivement ils soient assez durables et probablement liés à des atteintes neurologiques.
Plus de 500 chercheurs de 38 pays ont lancé hier une vaste enquête mondiale pour mieux comprendre ce phénomène. Autre étude lancée, cette fois en France, sur des lésions cutanées. Marie Bello-Barry, présidente de la Société française de dermatologie, a relevé
une fréquence anormale de certaines manifestations à type d'engelure, donc c'est-à-dire des lésions un peu violacées au niveau des extrémités, des orteils, des doigts. C'est peut-être lié au Covid, mais il faudra encore le prouver.
Il faudra donc multiplier les tests pour faire le lien entre ces symptômes et le coronavirus. Mais pour rassurer les patients infectés il y a déjà plusieurs semaines, aucun cas clinique de rechute grave n'a été enregistré à ce jour.
À l'hôpital, une bonne nouvelle hier soir. Pour la première fois, le nombre total de patients Covid-19 est en baisse. Et dans les services de réanimation, cela fait 7 jours d'affilée que le nombre de patients diminue.
Prudence pour autant. Le président du conseil scientifique, Jean-François Delfraissy, l'a d'ailleurs dit hier au sujet du confinement. On ne va pas passer du noir au blanc, on va passer du noir au gris foncé. Voilà ce qu'il dit. Prudence aussi affichée par les autorités sanitaires du Sud-Est.
Oui, alors que le professeur Didier Raoult indiquait que l'épidémie était en train de disparaître à Marseille, l'Agence régionale de santé lui a répondu. Nathalie Chevance.
Pas de pronostic, pas d'enthousiasme prématuré. Voilà la mise au point de l'ARS Provence-Alpes-Côte d'Azur après les affirmations du professeur Raoult. Une réponse du tac au tac par vidéo interposée du directeur général Philippe de Mester.
Non, l'épidémie de coronavirus n'est pas en train de disparaître. Rien que dans la journée d'hier, 481 nouveaux cas ont été enregistrés. 1847 personnes sont à l'hôpital pour ce virus.
Bataille de chiffres, l'ARS avance ceux au niveau régional, le professeur Raoult ceux enregistrés au sein de son IHU en nette diminution d'après lui. Et c'est vrai que globalement, depuis quelques jours, le nombre de personnes qui entrent à l'hôpital est moins important que ceux qui en sortent. Les courbes s'atténuent, souligne le professeur Jouve, porte-parole du collectif Interhôpitaux. Pour autant, on ne peut pas lâcher comme ça sur les réseaux sociaux que l'épidémie est terminée.
Il faut faire attention à la façon dont on formule les choses, mais surtout pas que les propos de Didier Raoult soient interprétés comme « c'est fini ». Rendez-vous ce week-end à la plage pour faire un barbecue. L'affaire n'est pas du tout malheureusement conclue. On meurt encore aujourd'hui en masse. Le personnel soignant et non soignant est à bout de souffle à la PHM.
Et pour éviter une éventuelle deuxième vague épidémique, l'ARS insiste bien pour l'instant sur la nécessité de rester confiné. Marseille, Nathalie Chevance, Europe 1.
Autre chiffre qu'à Europe 1, nous souhaitons aussi donner chaque jour, le nombre de patients sortis guéris des hôpitaux depuis début mars, 30 955. Ils étaient plus de 2000 rien qu'hier.
Si je vous dis 11 mai, Tout le monde a en tête qu'il s'agit de la date de début du déconfinement maintenant, 11 mai bien sûr. Et même si depuis l'annonce du président, des ministres ont précisé que c'était un objectif plus qu'une certitude, la pression est au maximum pour tenir ce délai. Les informations de Jean-Rémy Baudeau du service politique d'Europe 1.
Il faut réussir le 11 mai. Voilà ce qu'Emmanuel Macron a lancé hier lors du Conseil des ministres depuis l'Élysée. Réussir la préparation du déconfinement, rajoute un ministre présent. L'objectif que le chef de l'État a donné lundi soir ne peut être raté. Emmanuel Macron a parlé d'un cap à franchir. Sauf que les questions sont encore nombreuses. L'entourage du président le reconnaît. Le 11 mai ne sera pas un retour à la normale. Tout sera progressif. En coulisses à l'Élysée, on le sait. Le conseil scientifique a même fait part de ses réserves sur la réouverture des écoles le 11 mai. Mais un conseiller l'affirme, il n'y a pas eu de contre-indication non plus. La décision est assumée, elle est avant tout politique. Hier, devant ses ministres, Édouard Philippe a rappelé ses trois objectifs. Lutter contre la propagation, réarmer économiquement le pays et réussir ce déconfinement. Le gouvernement qui a désormais moins de 2 semaines pour rendre son plan, un objectif tellement ambitieux qu'un conseiller ministériel l'avoue. Le 11 mai, c'est un pari. Si jamais on n'est pas prêt, j'ai très peur d'un effet boomerang.
Encore un recours examiné par le Conseil d'État aujourd'hui en lien avec l'épidémie. L'association Respire réclame une réglementation sur les épandages agricoles car selon elle, ils causent une pollution atmosphérique qui aggrave les risques liés au virus.
À propos de qualité de l'air, depuis début mars, les compagnies aériennes ont arrêté presque tous leurs vols mais les avions doivent continuer à être bichonnés. Pour Europe 1, Aurélien Fleureau a recueilli les confidences de ceux qui veillent sur ces appareils en sommeil.
On a quasiment toute la flotte d'Air France qui aujourd'hui est arrêtée de vol, 180 machines sur 220 à peu près.
Les pistes sont devenues des parkings. Plus de 120 appareils alignés à l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle. Le reste est réparti entre Orly et Toulouse, explique Géry Mortreux, directeur général adjoint d'Air France en charge de la maintenance, dont la mission principale est désormais de protéger des avions qui ne restent jamais immobilisés aussi longtemps.
Protéger l'avion de différents phénomènes, de la corrosion, de l'apparition de bactéries par exemple dans le carburant, protéger par exemple les systèmes de sondes qui sont utilisés par les pilotes en appliquant dessus des protections pour éviter que des insectes viennent faire leur nid et viennent, lorsque on reprendra les opérations, perturber les bonnes informations pour les pilotes.
Autre opération indispensable en ce moment, faire bouger l'avion, démarrer le moteur, mais aussi faire en sorte que les roues restent opérationnel.
On doit faire tourner les roues. Alors soit on déplace l'avion, mais ce qui n'est pas toujours possible en position de parking, soit on utilise un cric, comme pour une voiture, pour finalement soulever le train d'atterrissage, pour pouvoir régulièrement éviter que cette carcasse de la roue ne puisse s'endommager.
Les avions resteront au sol entre 1 et 3 mois, 150 heures de maintenance pour chaque appareil. Pour s'en occuper, 1000 salariés d'Air France seront laissés, 8 fois moins de personnel qu'en temps normal.
Au retour du porte-avions Charles de Gaulle dimanche à Toulon, on savait que 50 marins étaient positifs au Covid-19. Tous ont été testés depuis et sur 1767 marins, presque 700 sont positifs et encore, il manque 30% des résultats.
Bonjour Pierre Cerne.
Bonjour.
Vous êtes conseiller régional d'Île-de-France, président du Club des villes et territoires cyclables, à la tête d'une mission confiée par le gouvernement destinée à favoriser les déplacements à vélo. Avec vous, on écoute Le Monde changer ce matin. Est-ce qu'il s'agit de profiter du moment du déconfinement pour repenser le vélo dans la ville ou simplement d'une mesure sanitaire pour ne pas qu'on s'entasse dans les transports en commun à la mi-mai?
J'ai envie de dire c'est un peu des deux et aucun des deux. D'abord, enfin, ce que je veux préciser, c'est que je ne parle pas au nom du gouvernement, que je suis un président d'association qui va essayer de coordonner des réponses en matière de vélo à la question du déconfinement et que par exemple je suis très très dubitatif sur le fait de déconfiner vite et dès le 11 mai. Une fois qu'on a dit ça, ce qui est sûr c'est que à partir du moment où des activités vont reprendre, le vélo va très probablement, et on le voit déjà en fait, être une solution de déplacement qui va être très adaptée en fait à la situation parce qu'il y a la distanciation sociale qui est quasi automatique quand on est à vélo, que beaucoup de gens manifestement ne prendront pas les transports en commun à la reprise par crainte,
mesure de précaution évidemment,
pas envie d'être les uns sur les autres et de toute façon vu ce qu'on voit dans les endroits où le déconfinement a lieu et avec des transports en commun, il y a des mesures de distanciation qui sont prises avec suppression par exemple d'un rang sur deux dans les bus en Pologne et donc ça veut dire que de toute façon on pourra pas prendre,
d'accord,
il y aura pas la place pour tout le monde et si on veut pas que ça implique que ce soit tout le monde dans des voitures, il faut bien qu'on pense à d'autres modes de déplacement et le vélo est particulièrement adapté à ça.
On parle de fermeture d'axes routiers, hein, de boulevards même en ville pour faire de la place au vélo, Pierre Cerne, pour être concret.
Non, on parle pas de ça. On parle pas de ça. On parle pour l'instant déjà de tester en fait des ce qu'on appelle des pistes cyclables temporaires ou des aménagements temporaires qui permettent de voir en ce moment par exemple il n'y a pas énormément de voitures, il y en a beaucoup moins qu'avant et pourtant il y a des gens qui vont travailler et plus de gens qui vont travailler en vélo qu'il y en avait avant. Et par exemple, il y a des hôpitaux qui sont très mal desservis par des pistes cyclables parce qu'ils sont souvent très excentrés et pour lesquels pourtant il y a beaucoup de soignants qui ont adopté le vélo comme mode de déplacement. Il faut dans ces cas-là qu'on invente très vite des aménagements cyclables avec des plots, des barrières, de la signalisation, quelque chose de très rapide, très souple, et ça préfigure en fait ce qui pourrait se faire. Il s'agit pas forcément de fermer totalement à la circulation automobile des axes entiers, mais de prévoir des axes cyclables sur des voiries où pour l'instant il y en a pas ou il y en a trop peu.
Où on en manque en tout cas. Merci Pierre Cerne, conseiller régional d'Île-de-France, président de l'association Villes et Territoires Cyclables, invité du journal de 8h d'Europe 1 en direct.
Amazon se défend alors que la justice a condamné l'entreprise mardi. Son patron pour la France, Frédéric Duval, le dit sur Europe 1 ce matin: nous appliquons toutes les demandes que nous font les autorités sanitaires. La décision de justice me rend perplexe, pardon. Je la respecte et je fais appel.
Europe 1. Vous restez bien sur Europe 1, une expérimentation sur le plasma comme traitement au coronavirus. C'est à New York et nous y sommes dans un tout petit instant. Vous êtes sur Europe 1 à 8h13. Le monde entier cherche des traitements contre le Covid-19. Aux États-Unis, des chercheurs ont commencé à en tester un à base d'anticorps de personnes guéries du coronavirus.
Donald Trump en a même parlé dans son point presse quotidien, expliquant que des milliers d'Américains guéris donnaient leur sang pour la recherche. Xavier Yvon est à New York pour Europe 1.
Diana Berendt a été l'une des premières malades à New York, l'une des premières à guérir et il y a quelques jours, la première a donné son sang avec ces fameux anticorps qui ont vaincu le virus.
Nous, les survivants, nous avons des super pouvoirs, dit-elle. Nous avons dans notre corps le secret de ce mystérieux virus.
Un secret que voudrait percer l'étude lancée par l'Université de Columbia. C'est le docteur Eldad Hodd qui a récupéré le plasma de Diana pour le transfuser à des groupes tests, des malades critiques, des malades légers et des gens en bonne santé.
Ce n'est pas une idée nouvelle, explique ce spécialiste des transfusions.
Ça a déjà été essayé il y a 100 ans pour la grippe espagnole ou pour le SRAS dans les années 2000, mais à petite échelle. Il y avait eu des résultats, mais pour savoir si le traitement est viable, il faut une étude complète. On essaye d'avoir la réponse le plus vite possible, explique le docteur Hodd, et si ça marche, alors l'industrie prendra le relais pour en produire le maximum. Il faudra pour ça une énorme quantité de plasma, et Diana a déjà créé une association pour appeler les autres anciens malades comme elle à donner un peu de leur super pouvoir. New York, Xavier Yvon, Europe 1.
Revenons en Europe à présent avec ce pays tout proche et qui fait figure d'exception. Le Portugal, presque miraculeusement épargné par le coronavirus.
Et pourtant, Vincent Hervouet, le Portugal n'a pas pris les mesures drastiques de certains pays d'Asie.
On explique les succès de la Corée, de Taïwan, du Vietnam sur l'épidémie par le quadrillage social et l'héritage confucéen. Au Portugal, il n'y a pas de test massif, pas de big brother numérique qui piste les contaminés. Et c'est la Madone de Fatima, pas Confucius, que l'on vénère. Mais la réussite des Portugais vaut bien celle des petits dragons asiatiques. Il y a 10 fois moins de malades chez eux qu'en Espagne. Et surtout, c'est le chiffre à retenir, leur taux de mortalité de 3%, alors qu'il est de 10% en Espagne. C'est d'autant plus frappant que la population est aussi âgée qu'en Grèce et que les hôpitaux sont les pires d'Europe. 4 lits en soins intensifs pour 100 000 habitants. En Espagne, il y en a 9. En Allemagne, 30. Mais c'est justement parce qu'ils se savent vulnérables que les Portugais ont pris des mesures draconiennes. 200 personnes étaient infectées et le gouvernement fermait les écoles. 400 malades et chacun rentrait chez soi.
Restrictions assez rapides, mais pas excessives non plus, Vincent.
Le confinement est assez lâche, on a le droit de faire ses courses, de faire du sport, les chantiers et les usines restent ouverts, mais la plupart des Portugais sortent une fois par semaine au maximum. Sur le plan politique, même retenu, c'est l'union sacrée derrière le gouvernement. La prudence est la vertu de ceux qui commandent, ça pourrait être la devise des Portugais, mais ça, c'est un proverbe de Confucius.
Le regard international de Vincent Hervouet, c'est tous les jours dans le journal de 8h d'Europe 1. On va terminer le journal en parlant intégralement. En allemand. Bon, on va peut-être pas quand même mettre quelques sous-titres. Alors, quoique des sous-titres pour La Reine des Neiges, dit Eiskönigin, serait-ce nécessaire?
En tout cas, en Allemagne, l'idée d'un cinéma en drive a été lancée. Dans votre voiture, vous vous garez devant l'écran géant. Hier, c'était donc La Reine des Neiges 2. Notre correspondant en Alsace, Arthur Mbaché, est allé faire un tour de l'autre côté de la frontière.
Alors, me voilà garé bien en face de l'écran sur lequel il est écrit que pour entendre le son, il faut se brancher sur la station de radio 105.9 Autokino. Le ciné en voiture.
Anna, Elsa.
Ah, Anna, Elsa, c'est bien la Reine des Neiges. Alors, je vais demander à mes voisins de voiture juste à côté ce qu'ils en pensent.
On s'ennuie avec les enfants à la maison, c'est long. Alors dès qu'on en a entendu parler, on a décidé de venir ici.
Est-ce que vous croyez que c'est sûr?
Yes.
Ben voilà, bonne réponse. Elle vient de me remonter la vitre sous le nez sur justement les précautions prises en ces temps de virus. Écoutez Johannes, l'organisateur.
Les fenêtres doivent rester fermées. Nous, on scanne le ticket à travers la vitre. Il n'y a pas de contact entre les gens.
Alors, je voulais vous donner le programme de ce mercredi, mais ça sert à rien. Côté français, on vous laissera pas prendre la route. Pour ça, essayez de dire aux gendarmes que vous allez à la séance de 17h de Peter Hase, Pierre Lapin, en VF.
Oh, papa.
Offenbourg, Arthur Mbaché, Europe 1.
Voilà, et libéré, délivré en allemand, c'est Ich lasse los, lasse jetzt los.
Oui, c'est, on peut le prononcer comme ça, c'est peut-être plus dur à chanter.
Facile.
Je ne vous ferai pas cet affront. François Geffrier, merci beaucoup. À 8h18, on retrouve Sonia Mabrouk et son invité. Bonjour Sonia.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Notre invité, c'est le professeur Gabriel Steg, chef du service de cardiologie à l'hôpital Bichat. Il est aussi aux avant-postes de la recherche de la lutte contre le Covid-19 à l'assistance publique hôpitaux de Paris. Les essais, les médicaments, un éventuel vaccin, l'entretien à suivre et les questions de nos auditeurs.
Au 39-21, oui, à tout de suite sur Europe 1. 8h19 sur Europe 1, votre invité Sonia Mabrouk, c'est le professeur Gabriel Steg, chef du service de cardiologie à l'hôpital Bichat à Paris et coprésident du comité de pilotage recherche Covid-19 de l'assistance publique hôpitaux de Paris.
Bonjour professeur Gabriel Steg.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en direct sur Europe 1. Une baisse du nombre d'hospitalisations dues au Covid-19 pour la première fois depuis le début du confinement. Alors bien sûr, on entoure ces chiffres avec beaucoup de prudence, mais quel signal y voyez-vous?
Bah écoutez, c'est encourageant. C'est, le reflet de l'efficacité du confinement pour essayer d'aplatir la courbe des hospitalisations et des entrées en réanimation. Donc c'est une très très bonne nouvelle, mais en même temps, il faut se rendre compte qu'on est à un plateau, on n'est pas dans une redescente, on est à un plateau du nombre de cas, les réanimations sont pleines, donc il y a un petit peu de place aujourd'hui, mais elles sont pleines à un niveau très haut, elles sont pleines à un niveau qui est le double ou le triple du chiffre normal. Les personnels de réanimation sont épuisés, parce que ça fait des semaines qu'ils se succèdent, souvent sans repos. On a une diminution du nombre de nouveaux cas qui se présentent à l'hôpital, mais on est loin d'être sorti de l'auberge, et s'il devait y avoir un rebond, si je puis dire, on serait mort. Et donc c'est important de comprendre que la situation est loin d'être réglée. Il faut que les patients qui sont aujourd'hui en réanimation puissent en sortir. C'est long, on sait que ce sont des séjours qui durent 2, parfois 3 semaines. Et le temps que les réanimations se vident et qu'elles redescendent à un niveau normal et qu'on puisse reprendre une activité pour soigner les nombreux patients qui n'ont pas le coronavirus mais qui sont toujours malades et qui se sont fait presque absents pendant cette période, on est loin d'être sorti de l'auberge. Donc c'est encore très très difficile à l'hôpital.
Prudence, vigilance, on vous entend bien, professeur Gabriel Steg. Malgré tout, l'hôpital tient, a tenu. C'est aussi un constat important. C'est évidemment l'abnégation et le travail extraordinaire des soignants.
Oui, je pense que je ne sais pas si tout le monde se rend compte de ce qui s'est passé à l'hôpital ces dernières semaines. Il s'est passé quelque chose d'assez incroyable, d'assez extraordinaire. parce que l'hôpital a tenu, c'est vrai. Il y a eu des moments extrêmement difficiles, il y a eu des pénuries, il y a eu beaucoup de difficultés, mais on n'a pas eu ce qui se passe dans d'autres pays, on n'a pas eu ce qui se passe à New York ou ce qui s'est passé dans certains pays d'Europe, avec des dizaines de malades qui meurent dans les couloirs. L'hôpital a réussi à être agile, à se réorganiser, à doubler, tripler, parfois plus, sa capacité de lit de réanimation. Et quand on double ou qu'on triple les capacités de réanimation, il faut avoir des lits, il faut avoir du personnel, il faut avoir des ventilateurs, il faut avoir des pyjamas, il faut avoir des consommables, il faut avoir des médicaments. Et tout ça, c'est une organisation de crise qui s'est mise en place dans tous les hôpitaux, qui a complètement remodelé les hôpitaux. On a en gros fermé à peu près tout ce qui n'était pas maladies infectieuses et réanimation, et tout le monde s'est mis à faire des maladies infectieuses et de la réanimation. Des chirurgiens orthopédistes se sont transformés en brancardiers, des cardiologues en infectiologues. Voilà, donc c'est une réorganisation drastique.
Et professeur, cette réorganisation drastique, vous l'avez, vous, éprouvée, si je puis dire, des deux côtés de la barrière. Vous êtes chef du service et vous avez été aussi malade, contaminé au Covid-19.
Oui, un des problèmes de l'hôpital, c'est aussi la contamination des personnels soignants. Le taux de contamination des personnels soignants est pas négligeable. On le connaît pas encore avec précision. On connaît les gens qui ont une maladie clinique. On sait pas encore, on n'a pas encore fait d'enquête sérologique à grande échelle. Mais oui, les personnels soignants, ils sont aussi exposés à la maladie. Non seulement ils travaillent dur, mais en plus ils sont exposés à la maladie avec l'angoisse que ça peut générer. Quand je suis tombé malade, je pense que comme tout le monde, j'ai réfléchi, est-ce que j'aurai la chance d'être dans les 99% de gens qui guérissent ou est-ce que j'aurai la malchance d'être du mauvais côté de la barre? Bon, j'ai eu la chance d'avoir une forme mineure, mais je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles il faut rendre hommage à tous les personnels de l'hôpital. Bien sûr, les urgentistes, les réanimateurs, les infectiologues qui ont été en première ligne et qui, depuis le premier jour, travaillent nuit et jour. Mais tous les personnels de l'hôpital, les femmes de ménage, les secrétaires, les ouvriers, la blanchisserie, la restauration, l'hôpital ne peut pas fonctionner sans tous ces personnels-là et ils sont tous en première ligne exposés.
Vous êtes, professeur Gabriel Stegg, aussi à l'avant-poste de tout ce qui se passe dans le domaine de la recherche contre le Covid-19, en particulier au sein de l'assistance publique Hôpitaux de Paris. De nombreuses études cliniques y sont menées actuellement. Est-ce que vous avez des résultats, des premiers tests probants?
Non, c'est trop tôt. Vous savez, le temps de la recherche n'est pas le temps des médias. Je suis comme tout le monde, on voudrait avoir des résultats. En même temps, jamais la recherche ne s'est mise en œuvre aussi vite qu'elle ne se met en œuvre sur le Covid-19. Il faut se souvenir que tout ça a commencé début mars. On n'est même pas mi-avril. Et je regardais hier les grands registres internationaux de recherche. Il y a plus de 500 essais cliniques en cours dans le monde sur le Covid-19. À l'assistance publique, on a lancé déjà...
Oui, à l'assistance publique, peut-être Paris, combien y en a-t-il ?
À l'assistance publique, on a examiné 150 projets. On en a sélectionné comme prioritaire plus de 70, on en a déjà lancé une trentaine et il y a une quinzaine d'études qui recrutent. Et cette semaine, il y a encore des études qui vont s'ouvrir. Hier, il y a une étude qui a commencé. Il y a 4 études qui vont commencer cette semaine. Donc ça va très très vite. En même temps, il faut nous donner quelques semaines pour trouver des résultats. Je pense que littéralement dans les jours et les semaines qui viennent, on va avoir des résultats, ce qui est incroyable. Ça, on n'a jamais vu ça. Il faut se souvenir que pour le sida, il a fallu des années
bien
pour
sûr,
trouver des traitements.
Mais nous faisons face aussi à une crise historique inédite. Parmi ces essais, professeur Gabriel Stegg, est-ce qu'il y en a un qui reproduit fidèlement le protocole du professeur Raoult, autrement dit hydroxychloroquine et azithromycine administrés dès les premiers symptômes?
Alors, il y a beaucoup d'études avec l'hydroxychloroquine, avec ou sans azithromycine. Je regardais à nouveau dans les registres internationaux hier soir, il y a plus de 80 études sur l'hydroxychloroquine, dont beaucoup combinent l'hydroxychloroquine et l'azithromycine. Et à l'assistance publique, il y en a au moins un qui fait hydroxychloroquine plus azithromycine contre pas d'hydroxychloroquine ni azithromycine. Tout le monde a un traitement anti-inflammatoire. Il y a la combinaison hydroxychloroquine-azithromycine. Donc, il y aura cette réponse-là. Il y a beaucoup d'essais, par ailleurs, avec l'hydroxychloroquine à l'assistance publique, à tous les stades de la maladie, pour des malades graves en réanimation, pour des malades moins graves mais hospitalisés, pour des patients ambulatoires en ville, et aussi pour la prévention chez les personnels exposés soignants, qui évidemment sont au contact des malades et qui ont une probabilité, un risque d'attraper le coronavirus qui est plus élevé. Et donc on aura des réponses. On commence d'ailleurs à avoir des tout premiers résultats d'études internationales qui paraissent. Les premières études commencent à sortir. Je pense que dans les semaines qui viennent, on aura des résultats et j'espère qu'on aura des résultats positif. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'il n'y a pas que d'hydroxychloroquine. Il y a beaucoup, beaucoup de traitements. Il y a des antiviraux, il y a des anti-inflammatoires, il y a des corticoïdes.
Et pas de nouveaux médicaments, c'est bien ça, professeur Steg. Vous travaillez sur des molécules, sur des médicaments que vous connaissez déjà, que vous connaissez bien d'ailleurs.
Alors le choix qu'on a fait à l'Assistance publique Hôpitaux de Paris, c'était de privilégier le repositionnement de médicaments existants. Parce que l'idée, c'est que s'il y a des traitements qui marchent, il suffit pas d'avoir un traitement qui marche, il faut pouvoir le donner à très grande échelle à des millions de personnes. Et donc, on peut pas, ça sert à rien de se dire on va chercher un nouveau super traitement qui n'existe pas et on va le tester. Il est plus logique de prendre des médicaments qui ont une activité antivirale et d'essayer de les repositionner contre le coronavirus, parce que si ça marche, on a une chance de pouvoir en disposer à grande échelle. Et c'est pour ça qu'on teste des anti-inflammatoires, des corticoïdes, des antihypertenseurs, et puis des stratégies plus baroque, comme par exemple vous faisiez allusion tout à l'heure dans le journal à la transfusion de plasma de convalescents à des patients malades. Ça, c'est une étude qui a commencé aussi à l'Assistance publique, qui s'appelle Coviplasme, il y a quelques jours, et qui pourrait être applicable à relativement grande échelle pour les patients les plus graves. Donc on teste ça. Et puis, évidemment, il y a toute la recherche vaccinale.
Justement, j'allais vous en parler. Professeur, précisez-nous quelque chose. Vous allez avoir beaucoup de questions et d'interrogations des auditeurs dans quelques instants. Est-ce qu'il vaut mieux se concentrer sur un médicament, un traitement curatif, que sur un vaccin? Parce qu'on imagine que la validation et la production d'un traitement est plus rapide que celle d'un vaccin, logiquement.
Oui, un vaccin, c'est forcément long. Si on a un vaccin début 2021, ce sera déjà un record historique. On n'a jamais mis au point un vaccin en moins d'un an. Et donc, il faut du temps pour un vaccin. Et donc, il faut les deux. Il faut fromage et dessert. Il faut des traitements antiviraux pour essayer de prévenir la contamination, des traitements anti-inflammatoires pour les malades les plus graves, pour les empêcher d'évoluer vers les formes qui nécessitent la réanimation, des traitements symptomatiques pour ceux qui sont en réanimation. Et puis, en parallèle, il faut également travailler sur les vaccins. Et les vaccins, il y a deux directions. Il y a la stimulation de l'immunité non spécifique. Vous avez sûrement entendu des essais qui sont faits de BCG thérapie, utiliser le BCG pour stimuler l'immunité et rendre les gens plus résistants aux infections. Et puis les vaccins spécifiquement dirigés contre le coronavirus. Et là, il y a beaucoup, beaucoup de travaux qui sont en cours. Mais je pense qu'il faut être réaliste. Ça aboutira en 2021.
Parce qu'un vaccin est essentiel si le virus revient malheureusement régulièrement chaque année. Merci professeur Steg, vous restez avec nous. Beaucoup de questions, c'est important. Vous êtes aux avant-postes de cette recherche dans la lutte contre le Covid-19. La recherche, les essais, médicaments ou vaccins. Nos auditeurs seront avec vous dans quelques instants.
Merci Sonia Mabrouk. Et effectivement, vos questions, c'est maintenant l'hôpital, la recherche, les personnels soignants. 3921 et le hashtag Radio Ouverte. A tout de suite avec le professeur Gabriel Steg.
Mathieu Béliard.
Et merci d'être en direct avec nous et avec nos auditeurs. Professeur Gabriel Steg, je rappelle que vous êtes co-président du comité de pilotage spécial Covid au sein de l'APHP, chef du service de cardiologie à l'hôpital Bichat à Paris. Simplement, je voulais vous faire écouter, professeur, ce petit extrait sonore. Ça se passe à l'hôpital Foch de Suresnes. Un patient ou une patiente qui sort de réanimation. Et on ne le dira jamais assez, hein, pour vous, les professions médicales, le corps médical, c'est ça la victoire, non ?
Oui, c'est des moments qu'il faut savourer parce que les personnels se battent pour que les patients survivent, les patients en réanimation. En réanimation, c'est très très dur, c'est très dur pour les patients, c'est très dur pour les personnels. Et chaque fois qu'un patient sort après avoir passé 15 jours, 3 semaines en réanimation, c'est une victoire effectivement. Et heureusement, on a beaucoup de victoires. Je voudrais pas non plus qu'on pense que à la réanimation. Il faut se souvenir que c'est une maladie dont 98%, 99% des gens guérissent. Hein. Donc évidemment, quand on arrive en réanimation, c'est pas ce pourcentage-là. Mais les gens qui vont attraper ou contracter la maladie, 99% vont survivre. Et il y a 1% de gens qui vont avoir le parcours le plus grave. Et donc, il est important de garder ça en tête. Mais pour ceux qui vont en réanimation, oui, c'est un combat très dur. C'est un combat très dur. Et heureusement, on arrive à en sortir une grande partie.
Et je le rappelle, puisqu'on le donne tous les matins, professeur, sur Europe 1, 30 955 personnes. Ce chiffre, on le donne tous les matins. C'est le nombre de personnes sorties, guéries et rentrées chez elles après une hospitalisation. Mais si je vous posais la question de la réanimation, c'est parce que Sophie nous a écrit sur le hashtag Radio Ouverte. Après une hospitalisation en réanimation, moins de 50% ont repris le travail 6 mois après. C'est vrai ce que dit Sophie ? C'est ça la réalité de la récupération après ?
Bah d'abord, pour le Covid, on ne sait pas encore, puisqu'on est loin d'être 6 mois après l'épidémie. Il faudra voir. Je pense que ça dépend des motifs d'hospitalisation en réanimation. Mais la réanimation, quand on est hospitalisé et ventilé sous ventilation mécanique et mis dans un coma artificiel, c'est une agression très forte pour l'organisme, dont les gens mettent des semaines à se remettre. On sort pas pour aller refaire un footing le lendemain. Et donc, il y a besoin d'une vraie rééducation après, d'une vraie réadaptation. Et c'est souvent un processus long de se remettre d'une réanimation. Donc, il va y avoir tout ce problème de la gestion, de la convalescence de ces centaines, de ces milliers de patients qui sont en réanimation aujourd'hui et qui vont passer des semaines et des mois en convalescence dans les mois qui viennent. Et ça va être aussi un énorme sujet d'organiser cela.
Professeur Gabriel Steg, accueillons André au 3921, auditrice parisienne d'Europe 1. Bonjour André.
Oui, bonjour Gabriel.
Vous connaissez ?
Oui, on se connaît très bien.
D'accord, ça fait 2 jours d'affilée. Hier, pardonnez-moi, je le précise pour nos auditeurs fidèles. Hier, j'avais un premier appel qui connaissait Gérald Darmanin et vous connaissez Gabriel Steg.
Je devine quel André c'est.
Très bien.
Oui. Alors, voilà, ma question, tu as peut-être trouvé ma question un peu prématurée, mais quand même, elle est importante. Le retentissement psychologique pour les personnes âgées, et pas seulement celles qui sont en EHPAD, d'un confinement qui dure indéfiniment, sans date de déconfinement, d'après ce qu'a dit Delfrécy hier, ce retentissement psychologique est quand même très important. Donc, pourquoi ne pas commencer à tester en priorité les personnes âgées, et je répète, pas seulement celles qui sont en EHPAD, mais toutes, ce qui permettrait de déconfiner celles qui ont un sérodiagnostic positif, donc qui ont des anticorps, et qui a priori sont protégés et donc pourraient être déconfinés.
Alors d'abord c'est un sujet, c'est un sujet énorme, le problème du déconfinement des personnes âgées, et c'est un métier. Moi je ne suis pas épidémiologiste, donc je ne suis pas le plus expert pour répondre sur ces questions. Maintenant que je me suis entouré de toutes les précautions, je crois qu'il y a 2 problèmes. Le premier, c'est qu'on n'a pas encore aujourd'hui des tests fiables. Si on avait des tests fiables de sérologie, ce serait formidable. Ils sont en train d'être mis au point, ils sont en train d'être validés, mais ils ne sont pas encore disponibles. Et le moment où ils vont être disponibles à grande échelle va être un élément absolument clé. La deuxième chose qui semble émerger, et là je prends beaucoup de précautions, mais il semble, d'après ce qui s'est dit ces derniers jours, et des observations notamment en Corée du Sud, que l'immunité acquise soit pas acquise chez 100% des patients convalescents et qu'elle soit pas nécessairement durable. Il se pourrait qu'on puisse perdre l'immunité qu'on a eue. Et donc là, on découvre cette maladie en temps réel, donc on apprend, on ne peut pas forcément tirer de conclusion des épidémies précédentes, mais si il s'avérait que tout le monde n'est pas immunisé après la maladie, et que quand on est immunisé, on n'est pas nécessairement immunisé définitivement, ça va compliquer considérablement la gestion du déconfinement, parce que ça veut dire qu'on ne pourra pas donner, entre guillemets, des certificats d'immunité.
Oui, c'est terrifiant.
Si c'est ça, c'est très très inquiétant et très embêtant, parce que ça veut dire que la seule solution, ce sera d'attendre le vaccin.
Ouais.
Merci André.
Merci.
Non mais merci vraiment. D'abord, quand on écoute la réponse du professeur, on a la pertinence de la question aussi. Cet échange, effectivement, c'est inquiétant. On va parler de ce qui pourrait être la suite. Je retiens ce que vous disiez à Sonia Mabrouk, professeur. On n'est pas encore sorti de l'auberge. Il faut faire attention aussi avec l'enthousiasme parfois. Merci André de votre appel au 3921. Professeur Gabriel Steg avec nous et avec vos appels sur le hashtag Radio Ouverte également. Vos messages, n'hésitez surtout pas. À tout de suite sur Europe 1.
Face à la crise que nous traversons, Engie s'engage auprès des particuliers avec des initiatives inédites. On en parle avec Florence Fouquet, directrice grand public chez Engie.
En effet, nous avons engagé 12 millions d'euros pour soutenir nos clients les plus fragiles avec le remboursement de 2 mois d'abonnement en électricité. Nous proposons aussi une offre de bienvenue pour ceux qui souhaitent souscrire chez Engie.
Alors vous vous engagez, mais vous encouragez aussi ceux qui veulent agir.
Oui, nous avons lancé un programme qui vise à mieux consommer l'énergie et qui permet en ce moment de faire un don pour les hôpitaux français parce que c'est important d'être solidaire.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur particulier.engie.fr. Merci Florence Fouquet.
Merci et prenez bien soin de vous.
J'agis avec Engie. L'énergie, notre avenir. Économisons-la.
Mathieu Béliard. Vous êtes sur Europe 1 à 8h36. simplement, parce que je voyais professeur Gabriel Stegg, je rappelle que vous êtes en direct avec nous pour répondre aux questions de nos auditeurs. Je voyais le message par exemple d'Olivier qui nous dit pourquoi après 4 semaines de confinement, le nombre de cas contaminés par le Covid ne diminue pas? Pourquoi est-ce qu'on reste confiné? En gros, nous dit Olivier, sachant que sur le principe, la population du coup est non contagieuse. Vous disiez avec Sonia Mabrouk, et c'est important, hein, on est encore sur le plateau, le pire n'est pas passé. Vous comprenez la question d'Olivier? Aujourd'hui, on a des gens qui sont confinés et qui se demandent pourquoi ils doivent rester chez eux alors qu'on est moins contaminés.
Là encore, ce que nous disent les épidémiologistes, c'est qu'il faut qu'on attende que l'épidémie redescende vraiment pour déconfiner, parce que si on déconfine maintenant, on va avoir un rebond. Et donc, dès que les gens vont rentrer en contact à nouveau, alors que le virus circule et que nous avons encore des centaines de nouveaux cas en région parisienne et des milliers de nouveaux cas à l'échelon français, ben, comme le virus circule encore, si on déconfine, la maladie va repartir, et comme elle repart de façon exponentielle, tout ça n'aura servi à rien. Ce serait la pire des choses à faire de déconfiner trop tôt, parce qu'à ce moment-là, on aura eu et le déconfinement et l'épidémie. Donc, pour vraiment que le confinement serve à quelque chose, il faut attendre que le virus ralentissent sa circulation, et ça prend des semaines. Et on est encore dans une phase trop active de l'épidémie pour déconfiner. À quel moment il faut déconfiner, ça c'est vraiment une question difficile. Les gens dont c'est le métier, les modélisateurs, calculent tout ça, ils essaient d'affiner leurs prédictions. Je suis pas sûr que la date du 11 mai soit une date mathématiquement inscrite dans le marbre. Je crois que c'est une estimation. C'est pour ça que je pense qu'il faut se souvenir qu'on parle du début du déconfinement le 11 mai. Mais ça va être un processus long. Et il faut bien comprendre que le coronavirus, il est avec nous, pas pour quelques semaines. Ça va pas être réglé cet été. On va vivre avec pendant des mois. On va apprendre à vivre avec des masques. On va apprendre à vivre avec la distanciation sociale. Et avant qu'il y ait des grands rassemblements de foule, des concerts et des matchs sportifs avec 100 000 personnes, il va se passer de longs, longs mois.
Françoise est en ligne avec nous. C'est important ce que vous dites, hein. C'est pour ça que je vous reposais la question, parce que c'est vrai qu'il y a aussi un enthousiasme parfois dans les médias. On constate la baisse des cas, la baisse des hospitalisations, mais il faut rester vigilant. Françoise a 72 ans, elle nous appelle de Gironde, elle est en direct sur Europe 1. Bonjour Françoise.
Bonjour monsieur.
Votre question. Bonjour. Pour le professeur Gabriel Stegg.
Bonjour professeur, oui, merci de prendre mon appel. Voilà, je suis comme beaucoup de personnes en traitement par double immunothérapie et pour séquelles de cancer, si vous voulez, une métastase. Et j'aimerais savoir si ça peut agir pour aider à combattre le coronavirus.
Alors c'est une excellente question. D'abord, il est clair que toutes les personnes qui sont malades doivent être particulièrement attentives à prendre les précautions de distanciation et de confinement, encore plus que les gens bien portants. Cela dit, on a constaté que chez les gens qui ont des immunothérapies, chez les gens qui ont des greffes et qui souvent ont des traitements qui boostent l'immunité ou des traitements antibiotiques au long cours, le taux d'infection est peut-être un petit peu plus faible que ce qu'on aurait attendu. Et on se pose la question de savoir si certains des traitements qui sont donnés au long cours chez ces patients pourraient avoir des effets bénéfiques. Et donc, la réponse précise, c'est nous ne savons pas, mais c'est un énorme sujet, évidemment, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui ont eu des cancers ou qui ont des cancers ou qui ont des maladies qui affectent leur immunité. Et donc, il est très, très important de savoir s'ils sont plus exposés que d'autres, moins exposés que d'autres, et qu'est-ce qu'on peut faire pour les protéger. Juste la réponse simple aujourd'hui, c'est prenez les précautions de confinement les plus drastiques possibles, parce que on ne veut pas que vous attrapiez ce virus.
Pas de risque à prendre, professeur. Merci Françoise. Une toute dernière question. L'organisme péruvien de sécurité sociale affirme qu'un bébé est né contaminé par le Covid-19 au Pérou. Il aurait été contaminé par sa mère à travers le placenta.
Oui, on est en train d'étudier cette question. Il y a les collègues gynécologues obstétriciens ont mis en place de grandes études pour essayer de surveiller ce qui se passe à la fois chez les mamans et chez les enfants. Moi, je peux pas me prononcer sur ce sujet parce que c'est un sujet où je suis vraiment pas compétent, mais ça va être un énorme sujet de s'assurer que il n'y a pas d'infection fœto-maternelle, qu'il n'y a pas de tératogénicité sur les femmes enceintes. Pour l'instant, les premières informations qu'on a sont plutôt rassurantes, mais je n'étais pas au courant de cette information venant du Pérou.
Très bien. C'est arrivé dans la nuit, et évidemment, je l'ai lu chez nos confrères du Parisien. On prendra le temps, évidemment, et c'est important aussi de rappeler ce qu'on ne sait pas. Merci beaucoup, professeur Philippe Gabriel Stegg. On en apprend évidemment tous les jours sur ce Covid, sur cette crise du coronavirus. Je rappelle que vous êtes le chef du service de cardiologie à l'hôpital Bichat à Paris, co-président du comité de pilotage spécial Covid au sein de l'assistance publique Hôpitaux de Paris avec nos auditeurs ce matin. Merci beaucoup, professeur. Il est 8h42. Europe 1. À suivre la revue de presse avec Nicolas Canteloup et Julie, bien sûr. À tout de suite sur Europe 1. Les Français sont-ils toujours convaincus par le télétravail? Nous allons en parler après 9h avec vous au 39-21. Tiens, décrivez-nous aujourd'hui l'installation autour de vous, vous qui allez peut-être commencer à travailler ce matin. On va vous écouter 39-21 et le hashtag Radio Ouverte. Pour l'heure, ils sont là. Nicolas Canteloup avec Julie.
C'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et tout de suite, on retrouve Mathieu Béliard pour le principal titre de l'actu.
Oui, ma chère Julie, l'actualité tout de suite, les titres d'actualité avec ce chiffre important. C'est déjà la 539e journée de confinement qui commence aujourd'hui. Et Christophe Castaner qui réfléchit à rouvrir les coiffeurs le 11 mai. Oui, parce que vous avez vu sur les réseaux sociaux tous les gens qui ont essayé de se couper les cheveux eux-mêmes et qui ont finalement choisi la boule à zéro. Eh bien, tout ça est terminé. On voit un véritable espoir. Qui se décide.
Écoutez, pardonnez-moi de vous interrompre, Julie Métis. C'est fort dommage, n'est-ce pas? Julie Métis, oui, comme dit ma fifi Marine. Oui, pardon, je me suis pas présenté, n'est-ce pas? C'est beau papy. Cher monsieur Béliard, c'est Jean-Marie Le Pen. Oui, et comme c'est dommage de rouvrir les coiffeurs. Alors qu'on avait autant de beaux crânes rasés que l'on voyait poindre à l'horizon. Et décidément, ce confinement, n'est-ce pas, aura réalisé mes rêves les plus fous. Et la moitié de la France est devenue skinhead. Tu devrais sortir ta tondeuse, jolie métisse. Rase-moi ces vilaines bouclettes. Et tiens, mets les bottes donc en cuir que je t'ai fait livrer pour ton anniversaire.
Non, c'est gentil, je vais encore regarder mon look. À vous, Julie.
Oh oui, s'il vous plaît, Mathieu.
Merci, Nicolas.
Le professeur Didier Raoult a suscité la polémique hier en affirmant que l'épidémie était en train de disparaître à Marseille. On est en duplex avec le maire de la ville. Bonjour, Jean-Claude Gaudin.
Oh, madame Julie, qu'entends-je, qu'acoustique-je. Vous osez remettre en question la parole de Saint Didier Raoult de l'Immaculée Chloroquine? Oh, Saint Didier, à la chevelure d'argent,
ouais, bah parlons-en, oui.
Au bouc et à la moustache rebelle, pardonne cette femme, elle ne sait pas ce qu'elle dit. Et merci, ô Saint Didier, d'avoir choisi Marseille. Marseille, grâce à toi, ville bénie. Marseille, ville de miracles. Lourdes, Jérusalem et Marseille sont les capitales de la croyance. Venez vous recueillir devant l'Institut épidémiologique sacré. Jetez donc des pièces dans nos fontaines, vous en serez récompensés. Ça porte bonheur, surtout à la mairie qui les récupère en fin de soirée.
De fait, l'épidémie semble sérieusement baisser à Marseille. Alors comment ça s'explique? C'est le port du masque?
Oui, le port du masque, je pense, y est pour quelque chose au-delà de l'action de Didier Raoult. Oui, le masque, d'abord porté par les personnels soignants pour aller travailler. Aussi également que ce soit dans les braquages, les cambriolages, dans les affaires d'enlèvement, de raquettes, d'extorsion de fonds. Le masque est caractéristique de ce petit artisanat typiquement marseillais. Et on voit aujourd'hui, au-delà des critiques parisiennes, on voit les résultats. Ah, madame Julie, la maladie. La maladie disparaît grâce à l'abnégation et à la discipline marseillaise bien connue. Également, il faut le rappeler à Saint Didier Raoult, le berger des dépistés, qui nous a guéris rien qu'en nous touchant. Béni sois-tu, la ville, en reconnaissance, t'offrira un maillot de l'OM avec ton nom imprimé dessus. Et ça, croyez-moi, pour un Marseillais, c'est pas une offrande en carte or.
Merci Jean-Claude Gaudin. La Chine commence à retrouver un semblant de vie normale. On va en parler avec l'ambassadeur de la Chine partout dans le monde, Jean-Pierre Raffarin. Bonjour. Monsieur Raffarin.
Oui, pardon, bonjour. Oui, non, j'attendais un son.
Mais le son n'est pas parti. Oui, parce que j'aime bien être accompagné. Oh, la technique, est-ce que vous êtes là? Ce n'est pas grave. Ils sont allés aux toilettes. C'est Jean-Pierre Apparin, l'ami de la Chine. Vive, oui, c'est au bout du couloir, au fond.
La vive la Chine. Jean-Pierre Apparin, je suis dans mon garage, mais allez, peut-être que c'est vrai.
Oui, je connais vos toilettes chez vous. C'est une porte que l'on ouvre et c'est de l'herbe qui est devant vous et un petit mur. Donne-moi un C, donne-moi un H, donne-moi un I, donne-moi un N, donne-moi un E, la Chine.
Et donne-moi un vaccin accessoirement. Hein. Bon, alors, la Chine va mieux, mais le reste du monde est bloqué toujours. Hein.
Mais c'est pas une bonne nouvelle, ça. Le monde entier est bloqué, sauf Wuhan. On annule alors donc Ibiza, Los Angeles et Saint-Barth et on part tous à Wuhan. Wuhan, c'est la nouvelle destination. Wuhan et son petit marché typique. Wuhan et sa gastronomie variée et animalière à base de rongeurs. Vive Wuhan!
Alors, c'est super que la Chine aille mieux, bien sûr, mais des voix s'élèvent. La Chine nous a menti sur la nature de l'épidémie. Et c'est ce qui a rendu la gestion du virus compliquée. Certains veulent leur faire payer une partie de la facture maintenant.
Petit temps, mais vous êtes effrontés ce matin. Chute malheureuse.
Ah, bah non.
Mais allons, monsieur Cotin, voilà, mais chut, le Chinois ne paye pas, sachez-le, cher Julie, ne paye pas les factures. Le Chinois amène les factures, amène la facture avec un petit shot d'alcool de riz dans un verre avec une femme toute nue. Voilà, c'est la tradition, avec un petit nougat mou sur le côté. Et c'est l'occidental qui paye. C'est la tradition chinoise, alors.
Oui, c'est ça, oui, oui. Merci, Jean-Pierre Raffarin. Amazon a été condamné par la justice à ne plus livrer que des produits de première nécessité. Alors, les employés dans les entrepôts n'étaient pas assez protégés contre le coronavirus. On est en ligne avec un directeur d'entrepôt d'Amazon, avec monsieur Jean-Patrick Amazon, je crois. Bonjour monsieur.
Oui, bonjour madame Julie. Oui. Nous prenons acte donc de cette condamnation, mais nous déplorons une vision d'une justice partisane. Nous sommes perplexes, comme l'a dit notre directeur France. Hein. Alors nous fermerons 5 jours, hein, comme l'a dit patron donc Frédéric Duval, hein, sur votre antenne ce matin. On va fermer 5 jours pour bouder. Voilà.
Vous contestez la version de la justice qui critiquait vos mesures d'hygiène ?
Mais écoutez, madame, bien entendu, aucun de nos esclaves, de nos employés, pardon, n'a été mis en danger, puisque nos entrepôts sont régulièrement désinfectés par d'autres de nos prises de nos travailleurs. Attendez, une seconde. Myriam, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous faites là ? Myriam, non. Retournez au travail. Hein. Vous êtes arrivé en retard ce matin à 3h02. Hein. Ah bah vous partirez à 22h30. Hein. Voilà. Hein, on ne vous paye pas 904 € par mois pour travailler uniquement 75 heures par semaine. Hein. C'est pas le Club Med ici. Non, c'est pas la pause. Non, c'est plus la pause. Hein, la pause, c'est 17 secondes, c'est pas 25. Hein, donc au travail, merci.
Oh là là, bah dites donc, ça rigole pas chez vous, hein.
Oui, donc je vous disais, Madame Leclerc, nous pensons avant toute chose au bien-être de nos détenus et donc nous prenons acte de cette condamnation que nous trouvons perplexes, nous sommes perplexes, voilà, et nous engageons néanmoins à encore améliorer nos gestes barrières, en particulier nous engageons à raccourcir d'un mètre la chaîne qu'ils ont au pied afin de respecter la distanciation sociale. Voilà. Et voilà Myriam qui pleure maintenant.
Enfin, bah écoutez, c'est un peu normal, hein. Mais enfin, avec ce qu'on a entendu, c'est normal qu'elle pleure, la pauvre.
Heureusement qu'on peut adopter des animaux malgré le confinement, donc je vais pouvoir la remplacer.
Quoi ?
Merci la SPA.
Excusez-moi. Oui. Jean-Patrick Amazon, c'est Mathieu Béliard. Tout à l'heure, je parlais avec votre patron. On voulait savoir les chiffres, le nombre de références que vous pouvez encore distribuer. Vous aurez un chiffre ?
Non, on n'a pas de chiffres exacts.
Mais vous auriez au moins une fourchette.
Mais vous pensez qu'à bouffer, vous, hein. Il y a des fourchettes, ouais, on a 232 en référence. Bon, on verra ça hors antenne.
Ok, merci, c'est juste pour savoir. À vous, Julie.
Merci, Mathieu. Allez, dans les mesures annoncées lundi soir par le président Emmanuel Macron, il y a donc l'annulation du Festival d'Avignon. Stéphane Bern, bonjour.
Oh oui, bonjour. Oh, je suis heureux de vous retrouver parce que hier, je devais intervenir sur votre antenne. On m'a coupé la chic. Oui, j'ai été, comme l'on dit trivialement, queuté au montage. Je voulais donc souhaiter, avec un jour de retard, mais je n'y suis pour rien, un bon anniversaire au gueux de la matinale, Mathieu Bern.
Bélia.
Merci,
36 ans. 36 ans, je regardais, je m'enquérissais dans mes livres d'histoire. C'est l'âge de Marie-Antoinette d'Autriche quand elle s'est faite couper la tête. Je ne vous le souhaite pas, mon cher Mathieu.
Merci.
Bon, en fait, elle avait 37, pour être exact, 37 ans. Mais comme vous en faites 52 depuis le confinement, ça passe, on va dire. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on disait? Oui, on annule Avignon. Oh non, on annule Avignon. Non, oh non, mais non, mais quelle catastrophe. Non, mais rendez-vous compte un peu de cette terrible nouvelle et de ses conséquences.
Ben oui, c'est terrible pour le monde de la culture. Hein.
Mais non, mais dites-donc ce matin, mais non, mais c'est terrible pour nous. S'il n'y a pas de festival d'Avignon, cela veut dire qu'on va voir errer dans les rues de nos villes tout un tas de gens désœuvrés, des mimes, des artistes de rue à cheveux gras, des cracheurs de feu socioculturels, des poètes sans domicile fixe déclamant du UNESCO enroulé dans un draus. Non, c'est insupportable. Oh non, non, mais quelle horreur, j'imagine la scène. Non, mais comme si on n'avait pas assez souffert pendant le confinement. Non, je vous en supplie, monsieur le président, monsieur le ministre de la Culture, laissez-les aller à Avignon. Franchement, c'est pas très grave s'ils chopent tous le Covid, finalement. C'est que des mimes, alors.
Oh, mais arrêtez Avignon, enfin, c'est pas
ça.
Ils
font des gestes de secours, c'est tout.
Oh, mais allons, c'est pas ça.
Non, vous avez raison, ça ne se fait pas. Avignon, c'est aussi autre chose. C'est aussi se farcir. Ma cousine ne mange pas que des merguez. Hein, ou se taper l'intégrale de Beckett dans une micro-salle de judo reconvertie en salle de spectacle. Ou également voir une pièce du IN, 7 heures sans entracte. 7 heures en durée réelle, mais 18 semaines. En 18 semaines en durée ressentie, comme dirait Cabrol. Non, ça va, si c'est pour avoir l'impression de vivre un deuxième confinement, merci bien.
Merci Stéphane
Bern. Hein, merci Julie et merci Nicolas Canteloup, bien sûr. Pas de problème de coiffeur hein, pour Nicolas, a priori. On en parlait au début. La revue de presse à retrouver sur europe1.fr. Bien sûr, tous les matins, la revue de presse, on en a besoin à 9h moins le quart. Il est 8h56. Vous restez bien sur Europe 1 à suivre le journal de 9h. Ce sera avec Hélène Zélani, le rendez-vous à la ferme de Fanny Agostini et notre débat un mois après le télétravail. Racontez-nous comment ça se passe. Est-ce que vous l'avez adopté, toujours convaincu ou non, peut-être agacé avec le temps aussi, les complications que vous avez rencontrées ou tout simplement votre aménagement tient autour de vous, votre ordinateur, votre téléphone, votre...
Pour la première fois, le nombre d'hospitalisations diminue en France, mais il ne faut surtout pas baisser la garde. Emmanuel Macron en mode offensif, le chef de l'État s'exprime aujourd'hui dans Le Point avec un leitmotiv, j'assume. Amazon ferme tous ses sites français pour au moins 5 jours après le rappel à l'ordre de la justice. Le patron d'Amazon France fait appel.
Cette action aura des conséquences sur nos employés, sur les entreprises françaises qui utilisent nos services. Je le déplore et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous faisons appel.
Et puis des nuits sans sommeil ou presque, vous êtes nombreux à souffrir de cette conséquence du confinement.
On a beaucoup de mal déjà de 1 à s'endormir. On s'endort en général rarement avant 3h30, 4h du matin. Sachant qu'en plus de ça, comme on est confiné, on tourne vite en rond.
Et juste après ce journal, Mathieu.
Un mois après le télétravail, racontez-nous, l'avez-vous adopté désormais? Nous serons en direct avec Benoît Serre, vice-président de l'Association nationale des directeurs de ressources humaines, mais surtout avec vous, 3921 et le hashtag Radio Ouverte. Il est 9h01.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
On espère évidemment que c'est un tournant pour la première fois depuis le début de l'épidémie. Il y a plus de sorties que d'entrées à l'hôpital. Dans le même temps, pour la 7e journée consécutive, le nombre de patients en réanimation est en baisse. Des chiffres certes encourageants, mais le professeur Gabriel Stegg appelle à la prudence. Chef en cardiologie à l'hôpital Bichat, il était sur Europe 1 ce matin.
C'est, le reflet de l'efficacité du confinement pour essayer d'aplatir la courbe des hospitalisations et des entrées en réanimation. Donc c'est une très très bonne nouvelle, mais en même temps, il faut se rendre compte qu'on est à un plateau, on n'est pas dans une redescente, on est à un plateau du nombre de cas, les réanimations sont pleines. Il y a un petit peu de place aujourd'hui, mais elles sont pleines à un niveau très haut, elles sont pleines à un niveau qui est le double ou le triple du chiffre normal. Les personnels de réanimation sont épuisés, parce que ça fait des semaines qu'ils se succèdent, souvent sans repos. On a une diminution du nombre de nouveaux cas qui se présentent à l'hôpital, mais on est loin d'être sorti de l'auberge. Et s'il devait y avoir un rebond, si je puis dire, on serait mort.
Le professeur Stegg au micro Europe 1 de Sonia Mabrouk. Cri d'alarme aussi de la directrice générale de Korian, le numéro 1 européen des maisons de retraite. Sophie Boissard réclame des solutions pour rétablir les liens entre les résidents et leurs proches. On ne peut infliger de telles mesures de séparation plus longtemps, dit-elle. Hier, le professeur Delfrécy, président du conseil scientifique, a estimé que 18 millions de Français devraient rester confinés après le 11 mai, notamment les personnes âgées de plus de 65 ou 70 ans.
L'heure des justifications pour Emmanuel Macron. Lundi soir, devant près de 37 millions de téléspectateurs, le chef de l'État jouait la carte de l'humilité.
Et aujourd'hui, il s'exprime dans le journal Le Point, les masques, les municipales. Adrien Beck, un seul mot d'ordre, j'assume.
Pas question de faille ni de raté. Dans cet entretien, Emmanuel Macron se défend. Le manque de masques, on me fait le procès d'il y a 15 jours, mais sur les stocks, je ne ferai pas le procès de mes prédécesseurs, dit-il. Une pique, en particulier à François Hollande. Concernant Agnès Buzyn, propulsée candidate au municipal à Paris, le chef de l'État l'assure, cela n'a eu aucun impact sur la gestion de crise. Mais régulièrement, le président confie une forme de tâtonnement au gré des avis d'experts. Le maintien du premier tour des municipales sur leurs recommandations. J'assume totalement, dit Emmanuel Macron, qui reconnaît aussi avoir craint les procès en manipulation en cas d'annulation. Une sortie au théâtre avec son épouse juste avant le confinement. Là encore, aucun scientifique ne m'a dit qu'il ne fallait pas sortir dans la rue, justifie-t-il. Depuis, le chef de l'État continue à se déplacer, créant parfois la polémique en plein confinement. Il me faut prendre le pouls du pays, assure-t-il, aller au contact là où se joue cette guerre sanitaire.
Et une entorse au confinement est acceptée à partir d'aujourd'hui. Il sera possible d'aller adopter un animal à la SPA et dans d'autres refuges. Animal qui devra être choisi en amont. Un rendez-vous précis sera fixé. Fermeture totale pour les sites d'Amazon en France. Tout à l'heure, à partir de 13h, les 6 entrepôts seront à l'arrêt pour au moins 5 jours. Amazon rappelé à l'ordre par la justice pour avoir vendu des produits non essentiels. Le risque d'une amende d'1 million d'euros par infraction était trop élevé. Sur Europe 1 ce matin, le directeur général d'Amazon France, Frédéric Duval, annonce qu'il fait appel et que le site va continuer à fonctionner grâce aux vendeurs tiers.
Ce qui m'importe aujourd'hui, c'est de me focaliser sur le présent et de faire en sorte effectivement que l'ensemble de nos clients puissent trouver et continuer de trouver les produits dont ils ont besoin sur le site. Notre service en France va s'appuyer sur notre formidable réseau de marchands tiers qui expédient et qui continueront d'expédier, et puis sur la flexibilité de notre réseau mondial de centres de distribution hors de France. Je pense que cette action aura des conséquences sur nos employés, aura des conséquences sur les entreprises françaises qui utilisent nos services, aura des conséquences aussi sur nos clients. Je le déplore, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous faisons appel.
Le directeur général d'Amazon France, Frédéric Duval, sur Europe 1 ce matin. Retour progressif au travail pour les salariés de l'usine Toyota de Valenciennes. À partir du 21 avril, la production, à l'arrêt depuis la mi-mars, va reprendre avec des horaires aménagés et des mesures sanitaires strictes. Ce sera le premier site de Toyota à reprendre l'activité en Europe. Deux informations nous parviennent à l'instant. Les créations d'entreprises se sont effondrées de 25% au mois de mars, selon l'INSEE. Et puis EDF baisse ses estimations de production nucléaire et évoque la suspension temporaire de plusieurs réacteurs sur les mois à venir.
Une enquête épidémiologique est en cours pour déterminer la chaîne de transmission du Covid-19 à bord du Charles de Gaulle.
Oui, au moins un tiers des marins ont déjà été testés positifs, soit 668. Une vingtaine est encore hospitalisée, dont un en réanimation. Il manque les résultats de 30% des tests. Aux États-Unis, nouveau record pour le nombre de décès, plus de 2500 en 24 heures, le plus lourd jamais enregistré par un pays. Donald Trump promet de dévoiler aujourd'hui sa feuille de route pour un redémarrage progressif de l'économie.
Une longue nuit réparatrice. Vous n'avez peut-être pas connu ça depuis un moment. Le confinement, source de stress, de cauchemars, perturbe notre sommeil.
Eh oui, on manque d'activité, on a peur d'être malade, de perdre son travail, on passe trop de temps devant les écrans. Bref. On dort mal. Stéphane Place.
Fermeture, confinement, depuis pour Laura et son mari qui tiennent un restaurant à Paris, des nuits compliquées. Habitués à de longues journées de travail, avec des horaires décalés, les voici chez eux, dévorés par les soucis liés à l'avenir de leur commerce.
Le stress des fermetures, le stress de la trésorerie et surtout l'attente au niveau des banques. Donc oui, on a beaucoup de mal déjà de 1 à s'endormir. Quand on se réveille pas en plein milieu de la nuit, c'est qu'on s'endort en général rarement avant 3h30, 4h du matin. Sachant qu'en plus de ça, comme on est confiné, on tourne vite en rond.
Conserver ses habitudes, dormir mais pas trop non plus. Le professeur Pierre Philippe dirige la clinique du sommeil du CHU de Bordeaux.
Le premier message, c'est tenir le rythme en se levant tous les jours à la même heure et idéalement en prenant de la lumière dès le lever, c'est-à-dire en s'exposant à la fenêtre ou en allant dans son jardin si on a la chance d'avoir un jardin, de façon à ce que votre horloge biologique reste bien calée en respectant un horaire de coucher raisonnable bien entendu, en limitant l'exposition aux écrans mais aussi en limitant toute source d'information qui peut majorer l'anxiété, créer un sas de 1 à 2 heures avant le coucher justement pour pas s'exposer à des phénomènes anxieux.
L'hygiène du sommeil, indispensable pour ne pas sortir complètement désynchronisé du confinement. Bordeaux, Romain Nouquet, Stéphane Place, Europe 1.
Voilà, je suis sûre que ça parle à beaucoup d'entre vous. Les dates du Tour de France, désormais officielles. Départ le 29 août de Nice, arrivé le 20 septembre sur les Champs-Élysées, 2 mois plus tard que prévu. Même parcours à quelques détails près, a priori mêmes équipes. Ce ne sera pas un tour au rabais, promet son directeur Christian Prudhomme. En revanche, c'est confirmé, pas de festival des vieilles charrues cette année à Carhaix dans le Finistère, prévu à partir du 16 juillet. Il est annulé, festival qui devait accueillir Céline Dion, Angèle ou Lenny Kravitz. Toujours en suspens, Rock en Seine, festival prévu fin août, mais qui risque d'être pénalisé par la fermeture des frontières.
Merci Hélène Zellani. Hélène, vous dormez bien vous en ce moment Hélène?
Peu. Mais comme d'habitude.
Mais
en
ça,
fait.
C'est comme d'habitude. Hélène Zellani pour le journal de 9h qu'on retrouve dans toute la matinale, évidemment. Et je le rappelle, ça fait longtemps que je ne l'ai pas dit. Vous êtes la dernière de nos voix de la matinale à être dans les locaux d'Europe 1. Merci beaucoup, Hélène, d'assurer ainsi pour sécuriser si la ligne coupait. Mais non, pour l'instant, tout fonctionne encore. Au moins jusqu'au 11 mai en télétravail, la rédaction d'Europe 1 pour vous réveiller, vous accompagner, vous divertir un petit peu aussi. Puis. Vous écoutez, vous intervenez régulièrement au 39-21, votre vie en télétravail, n'hésitez surtout pas à prendre la parole, on est ensemble jusqu'à 9h30. Europe 1. À suivre le rendez-vous à la ferme de Fanny Agostini, la météo de Laurent Cabrol également, à tout de suite. Et c'est l'heure du rendez-vous à la ferme, nous partons pour la Haute-Loire. Alors elle, c'est vrai qu'on va parler du télétravail pour ceux qui l'ont découvert, permettez-moi, avec ce confinement, la mise en place. Tiens, peut-être que c'est pour les DRH que c'est le plus dur. D'ailleurs, je reçois le vice-président de l'Association nationale des directeurs de ressources humaines. 39-21, que vous disent vos salariés aussi? Vous êtes gérant d'entreprise, est-ce qu'ils sont enthousiastes à l'idée de télétravailler? Est-ce que c'est compliqué? Racontez-nous. Et puis les salariés, du coup, dites-nous autour de vous ce que vous observez, votre univers de télétravail, votre nouveau bureau. Vous pourrez témoigner dans un tout petit instant au 39-21 sur le hashtag Radio Ouverte. Inscrivez-vous maintenant. Je disais qu'elle est en télétravail, mais ça c'est depuis la rentrée de septembre. Fanny Agostini dans sa ferme pédagogique de Haute-Loire. Bonjour Fanny.
Bonjour Mathieu.
C'est le rendez-vous à la ferme et Fanny, vous vouliez nous parler des abeilles qui, elles aussi, connaissent leur propre épidémie.
Ce n'est pas nouveau, mais chaque année, à l'instar de la grippe chez les humains, le varroa représente une vague mortelle pour les colonies d'abeilles. Le varroa, ce n'est pas un virus, c'est une sorte de poux. En fait, une espèce d'acarien, un parasite qui va sournoisement s'immiscer dans les ruches durant l'hiver. Son mode opératoire est le même que celui d'une sangsue. Il va se positionner sur l'abeille et aspirer l'hémolymphe, qui est le sang de l'abeille.
Et vous nous dites que les hivers de plus en plus doux augmenteraient le nombre d'attaques dans les ruchers ?
Complètement Mathieu, la dérégulation du climat implique des modifications dans le comportement des abeilles, car quand les hivers sont moins rigoureux, la reine va avoir le réflexe de pondre plus tôt et cet allongement du cycle du couvain va augmenter le cheptel de la ruche. Le couvain, ce sont les larves, les nouvelles abeilles en quelque sorte, et bien toutes ces naissances, ce sont des proies supplémentaires pour cet acarien suceur de sang. Le varroa va s'attaquer à des colonies plus importantes et donc la mortalité sera multipliée par un facteur 4. En plus de cela, une pénurie de pollen due à une sécheresse ou à une floraison trop précoce induit un affaiblissement des abeilles et donc une plus mauvaise résistance aux parasites et aux pathogènes.
Le changement climatique, c'est donc la double peine pour les abeilles.
Oui, combiné aux pesticides, aux attaques du frelon asiatique, à l'effet des ondes qui les désorientent et les amènent à ne plus retrouver leur ruche, et j'en passe, les abeilles sont sous le feu croisé de nombreuses menaces et devraient, elles aussi, avoir l'équivalent de notre OMS pour trouver non seulement des moyens efficaces de lutte contre la propagation du varroa, mais aussi pour fixer de grands plans stratégiques à l'échelle internationale afin de protéger ces insectes si précieux à l'humanité.
Merci Fanny Agostini. Tous les matins avec ce rendez-vous à la ferme, on apprend des choses au contact de la nature. Avec vous, Fanny Agostini, on retrouve évidemment ce rendez-vous sur europe1.fr. 9h13, tiens, Laurent Cabrol, vous avez des ruches, vous, chez vous?
Ben oui, j'en ai 4. Oui. Malheureusement, j'ai l'impression que cette année, je n'aurai pas grand-chose. Je crois qu'il n'y en a qu'une qui est encore en vie, les autres sont mortes cet hiver.
Illustration très concrète, ouais. Là, de ce dont on vient de parler, la mortalité des abeilles. Je me posais la question, vous m'aviez fait tout l'arche de Noé hein, de votre ferme, Laurent Cabrol, dans le Tarn. J'avais pas les abeilles. Le temps, c'est important pour les abeilles, le temps aujourd'hui,
ah,
Laurent
oui,
Cabrol.
Oui, le printemps abeilles aujourd'hui, parce qu'il va, surtout chez moi, il va faire chaud et les arbres sont en fleurs, c'est magnifique. Elles se régalent, les abeilles, en ce moment. donc quand elles sont là. Et aujourd'hui, effectivement, d'abord, dans un premier temps, nous allons avoir, certes, beaucoup moins de soleil qu'hier, mais un temps chaud entre 21 et 26 degrés. Ça, c'est bon. Le soleil sera filtré par les nuages, sera tamisé, parce que pas mal de nuages vont commencer à arriver. Alors, ce sont des nuages qui, pour l'instant, sont tout à fait inoffensifs. Ils donnent un peu de pluie sur le centre Bretagne, la Basse-Normandie, la Touraine, l'Anjou, la Sarthe et la Mayenne. Mais ailleurs, ce sont des nuages secs, j'allais dire. Mais, ce soir, les premiers orages vont atteindre le Béarn et le Pays Basque. Et ça, ça incite et ça dénonce un changement de temps assez flagrant. C'est-à-dire que les orages seront la suite de notre semaine et le début de la semaine prochaine. Nous allons vraiment vivre maintenant un temps orageux. Alors aujourd'hui, c'est trois fois rien. Demain, ça sera un petit peu plus sur le sud-ouest. Et puis samedi, alors pratiquement toute la France. Ça, et dimanche, une grande moitié sud. Vous voyez que nous allons maintenant parler orage. Ce sera notre langage des jours à venir.
Bon, Laurent, vous la connaissez, celle-là? Vous avez un sujet de conversation, il y a une chanson de Bourvil qui va avec. Merci beaucoup, Laurent Cabrol, la météo, bien sûr, le matin. 9h15, on va revenir au sujet qui vous concerne directement, qui vous préoccupe peut-être en ce moment, organiser le travail, le télétravail, en l'occurrence, un mois après. Est-ce que l'essayer, c'est l'adopter ou l'éprouver? Tiens, on pose la question avec les directeurs de ressources humaines dans un instant sur Europe 1. Bon réveil. Vous êtes sur Europe 1 et on va parler d'un sujet qui concerne nombre d'entre vous avec plus de 8 millions de Français en chômage partiel. Il y a aussi ceux qui sont en télétravail et nous sommes en direct ce matin avec Benoît Serre. Bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être en direct avec nous, vice-président de l'Association nationale des directeurs de ressources humaines. Benoît Serre, d'abord, pardonnez-moi, vous-même, vous êtes en télétravail ?
Ah oui, ça, je vous confirme, je suis en télétravail.
Vous êtes chez vous et vous devez du coup organiser le télétravail. C'est peut-être pour les DRH que c'est le plus dur, non ?
Ah bah c'est vrai que les DRH depuis quelques semaines maintenant, même avant le confinement, ils étaient bien sur le pont. Parce qu'il a fallu organiser avant le confinement, vous vous souvenez, ça paraît très loin aujourd'hui, hein, mais il a fallu organiser les bureaux, commencer à organiser la mise en place des mesures barrières, etc. Donc le confinement est venu rajouter encore une couche.
Oui, et la réalité, pardonnez-moi, mais sur le télétravail, c'est quand même une thématique, nous, médias, nous, journalistes, on a souvent beaucoup parlé du télétravail à chaque grève, quand c'est nécessaire, quand il y a des problèmes d'intempéries météo, mais ce sentiment que ça ne prenait pas. Là, on n'a pas eu le choix, il y a beaucoup de Français qui se sont retrouvés propulsés dans le télétravail.
Oui, on estime à peu près à 40% les gens en télétravail en France aujourd'hui, ce qui est à peu près la moyenne européenne. En revanche, 75% des gens en télétravail aujourd'hui n'avaient jamais télétravaillé. Ça veut dire que c'est une véritable nouveauté. Alors, il faut faire attention parce que le télétravail que nous vivons tous aujourd'hui, enfin une partie des Français aujourd'hui, ne correspond pas vraiment au télétravail tel qu'on l'avait pensé dans les dernières années, dont on parlait régulièrement. Parce que c'est un télétravail, celui d'aujourd'hui, qui est subi, permanent, dans des conditions...
intégrale, surtout.
Et intégrale. Dans des conditions, parce que les enfants sont pas à l'école. Donc c'est vrai que le télétravail qu'on vit aujourd'hui ne correspond pas vraiment au télétravail habituel. En revanche, il a créé des habitudes, il a créé une capacité des entreprises à faire du télétravail, parce que beaucoup pensaient ne pas pouvoir le mettre en œuvre ou ne voulaient pas. Il faut reconnaître que la France a une culture beaucoup du présentéisme quand même par rapport à d'autres pays. Par conséquent, les entreprises ont d'un côté découvert que c'était possible et que ça marchait, et de l'autre côté, les salariés ont découvert que c'était possible et que ça marchait. Donc il est assez probable que c'est quelque chose qui va rester.
Et c'est pas parce qu'on est en télétravail qu'on ne travaille pas, hein. C'est peut-être le premier message, c'est un message personnel que je passe aussi.
Je comprends, mais moi aussi je vais faire passer un message personnel du coup. Non, vous savez qu'on voit que sur le télétravail, en fait les gens travaillent beaucoup plus. Une partie des gens travaillent beaucoup plus parce que ou ont le sentiment de travailler plus parce qu'ils sont pas soumis aux horaires collectifs d'une part et puis d'autre part vous n'avez pas pendant le télétravail, c'est sans doute ce qui manque le plus, ce qui d'ailleurs commence à poser des problèmes d'ordre, ce qu'on appelle les risques psychosociaux. Vous n'avez pas les échanges informels que vous avez dans une entreprise et qui créent un peu des respirations dans le temps de travail.
On perd de l'information et de l'organisation en n'étant pas physiquement dans les locaux.
On perd de l'information, on perd de la dynamique collective, et on peut perdre aussi, vous savez, tout cet informel qui fait que c'est une forme de pause, de prendre un café avec un collègue, de discuter dans les couloirs, de rigoler un peu. On est un petit peu confiné aussi autour de son travail, donc on a du mal à déconnecter.
Bien sûr. Et là, question, j'aurais dû commencer par là d'ailleurs, Benoît Serre, puisqu'on parle du télétravail et de ceux qui l'ont découvert. Est-ce que l'essayer, c'est l'adopter ou est-ce que l'essayer, c'est l'éprouver? Après un mois, le premier bilan que vous faites, Benoît Serre.
Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, on a beaucoup d'informations qui nous disent que près de 60% des gens qui vivent aujourd'hui en télétravail souhaiteraient pouvoir continuer à le faire, sans doute évidemment pas en permanence, mais souhaiteraient voir leur poste transformé en partiel de télétravail dans les mois qui viennent. Ça veut dire que les gens sont en train d'identifier, certes que les conditions d'aujourd'hui sont pas top, mais en revanche, que ça constitue peut-être une solution d'évolution de l'organisation du travail et d'une certaine manière de la qualité de vie au travail. Ça, c'est extrêmement intéressant parce que vous avez sans doute observé depuis plusieurs semaines que beaucoup de gens disent le monde de demain, ce sera pas le jour d'après, ce sera pas le monde d'avant, ça va changer, etc. Peut-être pas dans des proportions considérables, mais en tout cas sur ce point-là, il est assez probable que ça va changer, qu'il va y avoir une demande des salariés de pouvoir le faire en télétravail. Demande qui va rejoindre sans doute l'intérêt d'un certain nombre d'entreprises, parce que on a découvert qu'on était soumis à ce type de pandémie. Beaucoup de scientifiques disent aujourd'hui que ça pourrait recommencer dans les années qui viennent. Autrement dit, des entreprises ont tellement souffert pour installer le télétravail qu'elles se disent qu'elles doivent conserver ça en termes de gestion de crise aussi. Donc il y a deux bonnes raisons, la volonté des salariés et l'intérêt des entreprises.
Oui, parce que je reviens à ce que je disais, des intempéries, il y en aura à nouveau, des grèves, il y en aura à nouveau, la pandémie, on ne sait pas évidemment, donc il faut au moins l'organiser. Alors je voudrais vous faire écouter un témoignage. Le témoignage oui. d'Estelle, justement, qui nous parle de son télétravail.
J'en avais marre de parler à mon frigo. Moi, j'ai besoin de voir du monde, quoi. Rester seule toute la journée, c'est très, très difficile, quoi. Et une histoire de confort, parce que chez moi, ben, je suis devant mon petit écran d'ordinateur portable avec ma chaise de cuisine. En fait, je suis carrément mieux au bureau.
Est-ce qu'il y a des... On est carrément mieux au bureau pour travailler d'abord, Benoît Serre?
Certaines personnes, oui, parce que ça, c'est très dépendant de vos conditions de confinement. Il est évident que, j'entendais un reportage tout à l'heure, quelqu'un qui est confiné à Haute-Loire, par exemple, pour prendre l'exemple de tout à l'heure, dans une maison avec un jardin, etc., c'est sûr que ces conditions de confinement sont pas comparables avec celui qui est dans un appartement dans une grande ville, isolé, ou alors avec un ou deux enfants en bas âge. Donc c'est vrai que les conditions de confinement vont beaucoup influer sur la manière dont vous percevez le télétravail. Mais au-delà de ça, ce que dit Estelle est intéressant, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que la dimension collective du travail, c'est-à-dire conduire un projet ensemble, échanger, travailler ensemble, rigoler, quelquefois s'engueuler, peu importe. Tout ça manque quand vous êtes en télétravail, parce que vous êtes un peu seul face à vous-même. Alors certes, vous avez des calls, vous avez des meetings, alors tous les systèmes existent en vidéo, etc., mais c'est quand même pas pareil. Donc vous êtes un peu tout seul. Donc les conditions de votre confinement vont beaucoup influencer la manière dont vous percevez le télétravail.
Accueillons Isabelle, qui est en ligne avec nous au 3921. Bonjour Isabelle.
Bonjour Mathieu.
Alors racontez-nous, on est avec Benoît Serre, racontez-nous votre télétravail, votre environnement de travail déjà.
Moi j'ai la chance de vivre pas loin de chez mes parents qui eux sont confinés à l'étranger. Donc en fait je me suis installé mon bureau chez eux, donc qui est dans le même endroit. Hein. Donc j'y vais à pied, hein. j'ai 25 mètres et comme ça je sectionne. En fait chez moi c'est chez moi et puis j'ai l'impression de partir travailler.
C'est important de cloisonner comme ça Benoît Serre?
Oui, c'est important parce qu'il y a un moment où il ne faut pas que votre activité de travail vienne envahir votre vie privée. La particularité du télétravail ou de la condition que vivent les gens aujourd'hui, c'est une espèce de mélange entre leur vie personnelle, leur environnement personnel. Alors Isabelle a la chance de pouvoir le faire. Le fait que votre travail est en train de s'installer chez vous. C'est quand même une configuration un peu particulière et certaines personnes peuvent se dire mais le problème c'est que je n'arrive plus à faire la différence entre le moment où je travaille et le moment où je vis à titre personnel. Donc si on peut le faire isolé dans, si on peut le faire encore une fois hein, trouver une pièce dans laquelle on travaille qui n'est pas une pièce dans laquelle on peut discuter ou autre, qu'on a la chance d'en avoir plusieurs, c'est sans doute un élément très important de ouais. confort au travail. Et vous évoquiez tout à l'heure le témoignage d'Estelle sur le fait qu'elle avait une mauvaise chaise de cuisine, etc. On se rend compte qu'on commence à avoir des problèmes d'ordre physique. C'est-à-dire que des gens qui ont mal au dos, vous évoquiez les gens qui dorment mal, etc. Parce que leurs conditions de confort au travail qui sont prévues dans les entreprises ne sont pas prévues à votre domicile, par définition.
Isabelle, je vous garde en ligne avec nous. On va accueillir Marie. Bonjour Marie.
Bonjour.
Vous aussi en télétravail. Hein.
Oui, heureusement.
Heureusement.
Oui.
Oui, c'est quelque chose que vous vivez bien, Marie, on dirait.
En fait, je travaille en open space et on est 35. Et c'est très anxiogène. On utilise énormément d'énergie à se reconcentrer toute la journée. Il y a beaucoup de bruit. Moi, je m'en suis bloqué le dos à force. Donc, je sais que là, je savoure ces moments à la maison où je peux travailler au calme. Je travaille mieux, plus vite. Chez mes collègues au téléphone, hein, c'est pas un problème. On communique bien. Et franchement, je vais avoir du mal à retourner dans tout ce bruit. Vraiment.
Là, c'est un témoignage de Marie qui l'a adopté, hein, le télétravail, Benoît Serre.
C'est très intéressant, parce que merci beaucoup à Marie de ce témoignage, parce que c'est vraiment intéressant. D'abord, ça montre qu'effectivement, vos conditions de confinement vont influencer, comme je disais tout à l'heure. Mais surtout, depuis quelques années, il y a eu un peu la folie des open space en France et dans d'autres pays. Et on voit bien que ça va être intéressant pour l'organisation du travail demain. Est-ce que l'open space va durablement rester la bonne solution? Parce qu'effectivement, ça crée d'autres contraintes. Et les gens ont maintenant un élément de comparaison. Comme vient de le dire Marie, il s'avère que quand je suis tout seul, quand j'ai personne qui me dérange, quand je suis pas obligé de faire taire les gens parce qu'ils parlent trop fort au téléphone, enfin, tout le monde connaît la vie d'un open space, tout d'un coup, je découvre que je suis plus efficace, plus productif et plus rapide. Si vous cumulez les deux, les open space, souvent dans les entreprises, ont été mises en place pour réduire les surfaces immobilières et faire des économies d'une certaine manière, et aussi créer de la collaboration.
Isabelle, Marie, toutes les deux, vous êtes encore en ligne avec nous. Simplement, est-ce qu'aujourd'hui, ça vous fait réfléchir à la suite de votre activité professionnelle, à éventuellement déployer ce dispositif plus souvent?
Oui, enfin pour ma part, déjà j'avais une réflexion personnelle sur mon travail depuis longtemps.
Marie.
Je pense qu'on sera beaucoup à réfléchir à notre façon de travailler, même à notre travail, tout simplement, à l'activité de notre travail, dans les semaines à venir, suite au déconfinement. Mais c'est vrai que je vais avoir beaucoup, beaucoup de mal à supporter à nouveau un open space. Et je pense que c'est avant tout une invention de manager, mais pas de manager.
Isabelle.
Mais pour ma part, ça faisait longtemps que j'aurais eu envie d'avoir au moins une journée dans la semaine en télétravail. Là, ça conforte mon idée et oui, j'adorerais et je soumettrais l'idée une fois le retour à la normale. J'apprécierais, oui.
En rappelant que là, aujourd'hui, vous travaillez à 25 mètres de chez vous, chez vos parents, ce qui vraiment peut donner l'impression d'aller au bureau pour télétravailler tout de même. Merci à toutes les deux, Isabelle et Marie, hein, pour vos témoignages. Et merci à vous, Benoît Serre, aussi, hein, d'avoir répondu aux questions de nos auditrices, aux témoignages. En l'occurrence, je vous passe le message d'Olivier sur le hashtag Radio Ouverte. On a une somptueuse photo de son jardin. Évidemment, on n'est pas tous égaux, hein, dans le cadre de travail. Merci, Benoît Serre, de l'Association nationale.
Merci à vous.
Des directeurs de ressources humaines. 9h28 sur Europe 1. On va se retrouver demain matin. Moi, je vais vous laisser avec Philippe Bandel. La matinale continue. La matinée continue sur Europe 1. Culture Média, c'est à suivre. La France bouge, évidemment. C'est à midi avec Elisabeth Assayag et Pierre de Villeneuve. Moi, je serai là demain matin en direct dès 6h. D'ici là, le monde aura changé. On va vous le raconter.